I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Pour aider l'auditeur, il faut signaler que Pierre-Étienne a arrêté strictement de boire.
Et de fumer.
Et de fumer.
En fait, j'ai arrêté de boire pour arrêter de fumer.
Oui, voilà. Donc.
Et le café. Comme ça.
Voilà.
Comme tu arrêtes tout en même temps, c'est génial.
Voilà. Donc, on a un Pierre-Étienne légèrement transformé.
Mais je suis toujours un peu transformé, hein, chaque.
Oui.
J'ai pas encore essayé de psychotrope, tiens, avant de venir ici. Et tiens, ce serait intéressant.
1, 2, Soundcheck, Soundcheck.
Soundcheck.
Méthode paranoïa critique, 2 points.
Paranoïaque, c'est le maximum du délire, et critique, qui veut dire le maximum de raisonnement.
Vincent Malone.
Pierre-Étienne Michelin.
Le bonhomme Michelin.
Pierre-Étienne Michelin, bonjour.
Bonjour Vincent.
De quoi allons-nous parler aujourd'hui ?
La dépénalisation du cannabis. Rien à voir.
D'accord, bah allons-y. Et non, pourquoi ?
Mais parce que je suis étonné qu'avec toutes les protestations là, de Gilets jaunes et le RIC et tout ça, quoi, on n'avance pas plus cette hypothèse. Parce que dépénaliser la drogue réglerait un grand nombre de problèmes.
La dépénalisation.
Oui, enfin, c'est un sujet parmi d'autres, mais.
Ah, d'accord.
Mais quand même, je trouve que c'est une voie et une hypothèse intéressante.
Alors pourquoi ?
Parce qu'on sait que ça a des effets extrêmement bénéfiques sur le cerveau, et le peuple est érotomane carrément du complotisme, du conspirationnisme.
Érotomane.
Ouais, il est accro à ça, il est accro à...
Ça veut dire quoi, érotomane?
Érotomane, c'est une maladie liée à la schizophrénie qui consiste à harceler quelqu'un, à devenir complètement addict d'une personne.
Ah, érotomane, c'est celui qui projette sur quelqu'un d'autre un fantasme, c'est ça?
Qui projette un fantasme, qui voit une espèce de dieu chez une personne. Le mec qui a assassiné, merde, comment il s'appelle, Chapman, le mec qui a assassiné John Lennon, érotomane, célèbre érotomane. On le voit dans le film fabuleux de Chapter 27, où le mec, on voit les derniers jours, on comprend ce qui se passe dans son cerveau. Moi, j'ai été harcelé pendant 5 ans par une érotomane. C'est extraordinaire, c'est incroyable ce qui se passe dans le cerveau d'un érotomane. C'est une espèce de maladie où tu dois faire partie de la vie de la victime. Tu es prête à tuer sa femme et ses enfants, pour faire partie de son histoire. Le type qui a planté un couteau dans la jambe de Mary Pierce était érotomane de Mary Pierce.
On est érotomane de quelqu'un ?
Souvent de quelqu'un, ouais. C'est l'artiste, ou un prof, ou un médecin, ou un psychiatre, ou... Tiens, d'ailleurs, une histoire célèbre d'érotomanie. C'est une érotomane un jour qui est chez son psychiatre, hein, qui est traité pour schizophrénie, et qui est érotomane d'une personne. Bon... Et il arrive, ce qui arrive parfois, c'est que l'érotomane fasse un transfert, transforme complètement son amour démesuré par la personne à une autre personne. Et là, elle devient érotomane de son psychiatre. Et ben, elle le manipule tellement, elle arrive tellement à l'endormir, que il quitte sa femme, le psychiatre. Il quitte sa femme, il se met avec sa patiente. Et 2 ans après, il se rend compte qu'en fait, il est complètement victime de sa nouvelle compagne et il se suicide. Le type qui a tiré 6 balles sur Ronald Reagan en 86. Érotomane de Jodie Foster. Ah, tu sais pas ça?
Non.
Vivait depuis 2 ans devant chez Jodie Foster. Et sa dernière lettre a été de lui dire « Regarde ce que je vais faire pour toi, mon amour. Je vais tuer le président des États-Unis d'Amérique. » Ah, tu sais pas ça?
Non.
C'est génial! Bon, il l'a raté, mais... En France, il y a une histoire célèbre aussi d'une élève... qui était érotomane de son prof de fac, qui l'a harcelé, 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 et qui a fini par lui balancer une bouteille d'acide dans la gueule. Ah, tu sais pas, ça?
Non.
Quand c'est une personnalité publique, c'est flagrant. On va associer ça à du fanatisme, plus ou moins
grave.
Voilà. Mais moi, j'ai été victime d'une érotomane
pendant 5 ans. Il a fallu que je me batte pour porter plainte. C'était la femme d'un chanteur que j'accompagnais à cette époque.
C'est pas ma femme, je précise.
Non.
Oui, c'est au vrai. Cas où.
Non, non. Mais c'est vrai qu'à cette époque, on travaillait déjà ensemble. J'ai discuté 20 minutes avec cette personne. 20 minutes, en tout et pour tout, après le premier concert que j'ai fait avec ce chanteur. J'ai discuté 20 minutes avec elle. Et, voilà, de rien, de tout. On a parlé de...
Je l'avais dragouillé un petit peu.
Ah, alors, absolument pas, je ne suis pas dans la séduction. Moi. C'est pas mon truc.
Je confirme.
Donc, ouais. Ouais. En plus, c'est la femme d'un pote. Enfin bon, bref. Non, mais pas du tout. Absolument pas. Je vais faire une petite parenthèse. Elle était black. Et moi, en général, je ne suis pas très attiré.
Morandini. Tu me fais penser à Morandini.
Oh, merde.
Non, un peu, non.
Ah, merde. Morandini. Ah, ouais,
non, il y a un peu de ça, quand même, non?
Il faut que je fasse quelque chose, là. OK.
Non, il y a un petit... Je t'assure, il y a un petit quelque chose.
Tu viens de marquer le coup d'envoi à mon régime. C'est génial.
Non,
merci,
Morandini,
Vincent.
Quoi.
Et puis, j'ai commencé à recevoir des textos. J'ai eu des appels jusqu'à 30 par jour. D'une femme complètement hystérique au téléphone.
Tu me dois à l'entrevue. Tu as renversé mon cœur. Tu as brisé ma vie.
Et elle a tout perdu. Elle a quitté son boulot. Elle a quitté son mari. Son mari, j'arrêtais pas de lui dire, putain, mais regarde ce qu'elle m'envoie, ta femme, quand même. C'est pas normal. Oui, mais elle est poète. Elle écrit.
J'aime bien le mari aussi.
Ouais.
Même. Oui.
Bah, je lui dis, non, mais tu rigoles. C'est une bagnole ou quoi, là? Et puis, au bout d'un moment, elle l'a quitté en lui disant, tu comprends, je suis avec quelqu'un depuis 2 ans qui est omniprésent. Et qui, à la fois, est absent. Mais en fait, 6 mois plus tard, parce que, entre-temps, on s'est fâché avec lui, tout, parce que moi, je supportais plus. J'ai coupé les ponts avec eux deux, parce que c'était plus possible, quoi. Et il a compris, 6 mois plus tard, on s'est revus. Il m'a dit, en fait, j'ai compris que c'était toi, quoi. Donc, elle a perdu son mari, elle a perdu son boulot, tout ça. Bon, et entre-temps, je portais plainte régulièrement, parce que j'avais des menaces de mort. Elle est venue à Valence, elle a fait le tour des magasins de musique en disant « Je suis une amie à Pierre-Étienne, j'ai rendez-vous avec lui, mais j'ai perdu son adresse, est-ce que tu pourrais me la donner ?» J'avais dû prévenir la police municipale devant l'école de mes enfants. J'ai fait un signalement à la mairie. Heureusement, ma femme était là dès les premiers messages, donc elle a bien compris qu'on était vraiment tombé sur une psychopathe. Et c'est, on n'a pas compris tout de suite, c'est à peu près au bout de 6 mois, 8 mois, où c'est ma belle-maman qui a vu un reportage sur l'érotomanie et qui a dit « Dis-donc, ça ressemble bien à ton problème avec la femme de ton pote, là. Regarde ce reportage. » Effectivement, et on était vraiment, il y avait tous les symptômes, avec des espèces de visions, des hallucinations, où des fois elle m'appelait comme ça, elle me dit
« Merci pour hier, à Pantin. »
Évidemment, j'étais pas du tout à Pantin la veille, donc c'était elle qui hallucinait complètement. On dit par exemple qu'un érotomane qui regarde la télé, il associe tout à sa victime, tout. C'est-à-dire qu'il regarde un journaliste qui resserre son nœud de cravate, c'est sa victime qui lui envoie un message à travers ce journaliste. Tout est lié, c'est une sorte de demi-dieu qui gère chaque détail de l'environnement de la patiente, j'allais dire. Parce que j'avais des menaces de mort.
Comment ça s'est terminé avec elle, du coup?
Eh ben, à la suite de la première plainte, elle a eu juste un rappel à la loi, mais elle a réussi quand même, parce que ces gens-là, généralement, sont extrêmement manipulateurs. Elle a réussi quand même à instaurer dans la tête de la commissaire en question, qui l'a auditionnée, que c'était moi qui la harcelais et tout ça. Parce que il y a eu une période où c'est vrai que je lui ai envoyé des « arrête de m'appeler », lâche-moi la grappe, avec des insultes pas possibles, tu commences à me faire chier, machin, tout ça. Enfin, c'était vraiment... au début, je disais, bon, t'es gentil, mais je laisse mon portable allumé, je suis en tournée, tu vois, bon, évite tes messages à 3h du mat', ça me gonfle. Au début, j'étais poli, puis très vite, tu perds patience. Et en fait, c'est un psychiatre, après, qui m'a aidé, qui m'a dit, faut surtout pas lui répondre. Parce qu'à chaque fois, même si tu lui envoies des insultes, tu fais partie de sa vie. Tu as une place dans sa vie. Et donc, ça va pas la soigner. Deuxième plainte, elle a été convoquée. Ça a été traité très vite. C'est la prochaine fois, si Monsieur Michelin reporte plainte, cette fois, il y a procès, quoi. Donc, après la deuxième plainte, elle s'est tenue à carreau. Mais bon, on parle de ça a duré 4 ans. Hein. Elle a régulièrement essayé de me recontacter avec d'autres numéros. Je la soupçonne de prendre des fois des téléphones de copains ou d'autres personnes pour... Ah pardon, je me suis trompé de numéro. Je t'attends à 6h devant Notre-Dame. Tiens, je sais pas. Et puis en fait, erreur de numéro. Donc, je sais très bien que c'est elle, mais c'est juste pour voir ce que je vais répondre, si je vais envoyer une petite blagounette. Elle suivait, c'était facile de me suivre hein, sur les réseaux sociaux de mes activités de musicien. Donc elle venait à tous les concerts où je jouais. Et comme elle n'avait pas le droit de m'approcher, de me parler, elle poussait tout le temps un cri dans la salle pour que j'entende qu'elle était là. Le truc...
De quel genre de cri ?
Ouais, c'était un peu un ouloulou africain.
Un you-you.
Ouais. C'était terrible parce que plusieurs fois, je me suis posé la question, mais qu'est-ce que j'ai pu dire ? Qu'est-ce que j'ai pu faire ? Pourquoi ça a vrillé comme ça ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Je lui ai posé la question, mais qu'est-ce que j'ai pu dire ou faire pendant ces 20 minutes pour te vriller le cerveau à ce point-là ? Il m'a dit,
mais t'as massé mon cœur, t'as pris ma vie, tu m'as appris.
T'as massé mon cœur.
Ouais, alors justement, parce que... Alors...
Ah oui, là, je vois que tu fais le geste de masser le cœur.
Non, mais parce que ça parle de massage, parce qu'en fait, elle était masseuse dans un salon de massage. Après le concert de son mari, elle vient nous voir tous les musiciens et elle dit...
J'ai un salon de massage, masseuse, vous venez...
Elle dit à chacun...
Je vous offre un massage dans mon salon, gratuitement, vous venez quand vous voulez.
Et moi, je lui ai dit, je me souviens très bien, j'étais en train de ranger mes cymbales, ranger, me plier ma batterie. Et je lui dis, oh, tu sais, moi, les massages, c'est pas mon truc.
Ah bon ? Pourquoi ?
Non, mais alors, ça a tendance à m'énerver plus qu'autre chose. C'est pas que je suis pas tactile, mais je sais pas, il y a un côté apaisant, en fait, qui est stressant. Ça rejoint le côté dormir me fatigue. Tout ce qui est calme mérite. À la limite, un massage de ma femme, à la limite. Et puis, alors là, elle est partie... un truc.
Ah, oh, c'est beau, c'est tellement charnel, tellement, t'es tellement un homme amoureux, ça se voit, t'es un homme heureux.
C'est parti, quoi. C'était parti, dans sa tête, c'était parti. Il y a eu le... Et j'ai discuté 20 minutes avec cette personne. 20 minutes.
Elle décrivait quoi ?
C'était des fois complètement sans queue ni tête. Ça parlait de fontaine, d'eau, de mort, d'amour, de Dieu, de spiritualité, de sensations. De...
Donc c'était pas du cul ?
Non, non. Ou alors ça pouvait être suggéré. Je vais te manger, je veux te consumer jusqu'à la dernière...
Oui, ça ressemble à du cul, j'avais.
Ouais, ouais, mais c'était plus dans le sens cannibalisme, un peu. Tu vois, c'était manger comme on mange l'hostie.
Vous écoutez bien Tintin au Congo. Une émission rétrograde et raciste. Okay.
Ben un jour, c'était incroyable. Elle me laisse un message à 5h du matin en hurlant.
Tu me dois une entrevue, tu dois me répondre, tu dois m'écrire, tu dois me... Tu es partout dans ma vie.
Elle était vraiment complètement hystérique. Et puis... Je sais pas si c'était volontaire ou pas, mais 10 minutes plus tard, elle est dans un taxi. Son téléphone est resté, m'appelle, c'est un coup de fil de sac à main. Et donc j'entends, son téléphone est dans son sac à main. Je l'entends parler avec le chauffeur taxi, complètement calme, naturel.
Oh, c'est vrai que les gens sont comme ça aujourd'hui, oui, c'est sûr.
Elle parle avec le chauffeur taxi, vraiment une conversation, mais complètement normale. Que j'ai plus rien à craindre parce que soit elle est décédée, cette personne, parce que de toute façon elle prenait vraiment la direction de finir suicidaire. Ouais, bien sûr, souvent c'est souvent comme ça que ça se termine. Hein. Les érotomanes, soit ça se termine par meurtre et suicide derrière, soit suicide parce qu'ils comprennent qu'ils ont été malades pendant des années et qu'ils ne pourront jamais se passer de leur victime.
Mais est-ce qu'on s'en responsable dans ce cas-là ?
Je crois même que je lui ai dit, parce que des fois elle m'appelait...
Je suis sur le rebord de la fenêtre, si tu ne me réponds pas, je saute.
Je crois que j'ai répondu saute. Clairement, après je faisais attention parce que ça pouvait être de l'incitation au suicide. Mais j'avais tout fait, j'avais appelé son mari des dizaines de fois en lui disant « ta femme est malade, il faut la soigner, elle a besoin de voir un psychiatre, elle est érotomane, c'est de la schizophrénie ». Et lui était complètement aveugle, il voulait rien entendre, quoi. C'était moi qui délirais complètement. Je m'étais monté la tête contre elle, et elle, évidemment, ne cessait de lui répéter que c'est moi qui exagérais, qui était complètement à côté de la plaque, qui était complètement parano en plus. J'étais complètement parano alors que tout le monde sait très bien que je suis pas parano.
Donc on est parti de la légalisation du cannabis pour arriver à l'érotomanie et je ne me souviens plus pourquoi. En fait.
Non, parce que j'ai utilisé le mot érotomane en disant que le peuple était érotomane du complotisme et du conspirationnisme et que du coup le cannabis joue un rôle dans la schizophrénie et l'érotomanie. Voilà, on a fait un grand écart, comme j'aime le faire. On revient au cannabis. Le problème, c'est que pendant longtemps, on a cru que le cannabis provoquait les crises de schizophrénie ou décuplait les crises de schizophrénie ou générait même de la schizophrénie. Or, finalement, on s'est rendu compte, des scientifiques, hein, attention, c'est pas moi qui ai mis l'hypothèse encore, qu'en fait, les consommateurs schizophrènes ou qui ont une forme de schizophrénie, il en existe des dizaines évidemment, qui consomment du cannabis ont plutôt un système de préservation, c'est plutôt curatif, c'est plutôt pour se soigner, c'est plutôt pour se faire du bien. Rien que le fait de devoir se procurer du cannabis pour un schizophrène, c'est l'obliger à garder une sociabilité. Et ça a des effets bénéfiques. La dépénalisation du cannabis fait peur pour une raison, c'est l'éveil des consciences. Plus les gens éveilleront leur conscience, éveilleront leur connaissance, et tout ce qui est plaisir et dopamine éveille la conscience, éveille la connaissance.
D'accord. Eh ben merci Pierre-Étienne.
J'ai été victime d'une érotomane pendant 5 ans. Putain, aujourd'hui, revivre ça, j'ai discuté 20 minutes avec cette personne. Bon, non, ce serait dur à chauffer, il me faudrait un truc plus gore, alors, à ce moment-là. 20 minutes. Une érotomane dangereuse, quoi. Il y a eu le... qui me blesse et qui vraiment qu'un rôle dans le... Tu vois, là c'est pas intéressé.
On est très très mal.
Ah, je t'avais dit qu'on était mal.
Ever Googled your own name? Prepare for a shock because your personal info, including addresses and phone numbers, is out there, especially with the recent hacks at some big phone and healthcare companies. But here's where Aura steps in. Aura scans the dark web for your sensitive information and sends real-time alerts. Aura also actively requests that your information be removed from data broker sites, putting you back in control. Aura provides you with a complete online safety toolkit, credit and transaction monitoring, a secure password manager, a privacy-enhancing VPN, and more. Try Aura risk-free with a 14-day trial at aura.com/safety. That's aura.com/safety. Rest easy with Aura. Visit aura.com/safety today.